les 14h10 à Paris. Tout de suite, vous retrouvez le Journal des Amériques avec Marie Normand. Bonjour Marie.
Et bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Un vote massif, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont participé au référendum de l'opposition hier. À quoi vont servir ces consultations? Quelle peut être désormais la stratégie de l'opposition? Nous appellerons notre correspondant au Venezuela. Redonner confiance à la population, protéger les frontières, voilà quelques-uns des objectifs de l'armée haïtienne qui recrute ces jours-ci. Certains s'inquiètent de ce retour. Réponse du ministre de la Défense.
Il y a une partie de cette institution dont nous ne sommes pas fiers. Mais attention, il y a aussi une partie dont nous sommes très fiers. N'oubliez pas que nous sommes un peuple d'anciens esclaves et que pour faire notre indépendance, nous avons dû créer une armée indigène. C'est une institution d'un nouveau genre que nous voulons créer qui accompagne le pays dans sa quête vers le développement.
L'entretien complet d'Amélie Baron avec le ministre Hervé Denis dans cette édition. Et puis, c'était une première, deux départements d'outre-mer à la Gold Cup. Aucun, malheureusement, n'a réussi à se qualifier pour le second tour. À 8h11 à Caracas, l'opposition vénézuélienne assure avoir gagné son pari hier. La participation à son référendum sur les projets du président Maduro a été massive. En effet, plus de 7 millions d'électeurs. Un vote symbolique puisqu'il n'était pas reconnu par le gouvernement. Mais cela n'a pas empêché les Vénézuéliens de se mobiliser en masse. Donc, à l'étranger aussi, les nombreuses familles qui ont fui le pays ont afflué dans les bureaux de vote, comme en Argentine par exemple, où vivent plusieurs dizaines de milliers de Vénézuéliens. Reportage signé Audevilliers-Moriamé.
Le dimanche matin, d'ordinaire, les rues sont désertes dans l'Abasto, quartier de classe moyenne de Buenos Aires. Mais ce matin-là, on aperçoit de loin une queue interminable de plusieurs centaines de personnes. La plupart sont vêtus de jaune, bleu et rouge, les couleurs du Venezuela.
Les bureaux de vote fermeront à 16h.
Dans la file, Béatrice Armas, cette Vénézuélienne de 52 ans, s'est levée très tôt pour aller voter.
C'est très important de participer aujourd'hui, même si le gouvernement ne reconnaît pas notre vote. Nous, les Vénézuéliens, nous nous levons pour dire on ne veut plus de cette dictature.
Gabriel Betancourt surveille le bon déroulement du vote. Ce représentant du mouvement d'opposition Voluntad Popular a fui le Venezuela il y a un an, après avoir été arrêté par la police et menacé de mort.
Il y a tellement de monde qui participe alors qu'il fait 3 degrés dehors, c'est fou. On est tous mobilisés pour défendre l'opinion du peuple.
Tous ne partagent pas l'optimisme de Gabriel. Jonathan Roa, 28 ans, a participé au vote ce dimanche sans trop y croire.
C'est juste symbolique. Le gouvernement fera son assemblée constituante de toute façon. Ça fait longtemps que ce pays a cessé d'être une démocratie.
Ancien professeur de géographie, Jonathan travaille à Buenos Aires comme vendeur au noir. Il espère un jour gagner suffisamment d'argent pour faire venir sa famille rester au Venezuela. Audevilliers-Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Et à plus de 98%, les électeurs vénézuéliens à l'extérieur et à l'intérieur du pays ont donc voté contre la constituante convoquée par Nicolas Maduro. En ligne avec nous pour en parler, Julien Gonzalez. Comment ce résultat, Julien, a-t-il été accueilli par l'opposition ?
Les ténors de l'opposition ont été unanimes, la journée a été historique. Dès l'annonce des résultats, ils ont été nombreux à affirmer que la consultation a été un franc succès. Il faut dire que le référendum de ce dimanche a été organisé en seulement 2 semaines et que l'opposition n'a pu déployer que 2000 bureaux de vote pour le référendum de ce dimanche, soit 6 fois moins que lors d'une élection. C'est dans une ambiance festive que les Vénézuéliens, vêtus pour beaucoup d'entre eux des couleurs du pays, ont participé au vote de ce dimanche, une fête qui a été entachée par la mort d'une femme au cours d'une fusillade dans le quartier populaire de Catia, à l'ouest de la capitale. Au moins 3 autres personnes ont été blessées. La justice a ouvert une enquête. L'opposition, elle, a dénoncé un acte commis par des groupes paramilitaires armés à proximité d'un bureau de vote. Jusque-là, la référence de l'opposition, c'était sa victoire lors des législatives de décembre 2015. À l'époque, elle avait rassemblé plus de 7,5 millions d'électeurs. Ce dimanche, elle arrive à se hisser presque au même seuil, preuve que la participation a été massive, mais elle reste tout de même en deçà de certains pronostics qui avançaient même le chiffre de 11 millions d'électeurs, tant la situation économique est dégradée.
Julien Gonzalez, correspondant de RFI au Venezuela, comment le camp Maduro a-t-il réagi ?
Pour l'heure, le camp présidentiel n'a pas commenté les résultats du vote de l'opposition, mais Nicolas Maduro l'avait assuré la veille. Il s'agit selon lui d'une consultation interne dont le résultat ne sera pas légal parce qu'il n'a pas été convoqué par le Conseil national électoral. La présidente des autorités électorales a d'ailleurs réaffirmé ce dimanche que ce vote n'aura aucune conséquence juridique, appelant l'opposition à ne pas créer de fausses attentes. Le camp Maduro a surtout voulu focaliser l'attention sur un autre vote ce même dimanche, mais bien sûr pas celui de l'opposition, un vote organisé par les autorités électorales pour tester les machines de vote qui seront mises en place pour élire les membres de la Constituante le 30 juillet prochain. Objectif clair, ne pas laisser le champ libre à l'opposition et à son référendum, quitte à jouer de la bataille de chiffres avec le vote de l'opposition. Les leaders du camp présidentiel se sont en effet succédé pour célébrer les millions d'électeurs ou encore la participation historique des Vénézuéliens à cette simulation de l'élection à venir.
Et que va faire l'opposition maintenant ?
Eh bien, c'est la question que bon nombre de Vénézuéliens se posaient ce dimanche en allant voter. Lors de la 100e journée de protestation il y a quelques jours, l'opposition avait annoncé qu'au lendemain du référendum, elle allait lancer l'heure zéro. Objectif, faire monter la pression sur le président Maduro, le forcer à retirer son projet de constituante. Depuis près de 4 mois, l'opposition alterne presque quotidiennement les manifestations, les sit-ins, les blocages. Pour l'heure zéro, elle se réfère à l'article 350 de la Constitution qui appelle à ne pas reconnaître tout régime qui va à l'encontre des principes démocratiques. L'opposition devrait révéler dans les prochaines heures les détails de cette nouvelle stratégie.
Merci Julien Gonzalez, correspondant de RFI à Caracas. Arim Lipold nous a rejoint. Bonjour Arim.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Ce vote consultatif a fait bien sûr la une de la presse.
Oui, des millions de Vénézuéliens ont voté contre Maduro, renforçant l'opposition, titre le journal argentin Clarín. Au Venezuela, El Nacional annonce lui Maduro battu par la rue, alors que le quotidien La Verdad parle d'une rébellion démocratique et espère un nouveau départ, susceptible de sortir le pays de la grave crise politique et économique dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années. Mais rien n'est moins sûr. Pour le Los Angeles Times, le Venezuela reste très divisé et la consultation d'hier n'y changera rien. Plus optimiste, ce commentaire dans le journal en ligne Tal Cual, journal proche de l'opposition. Nous aimerions changer le gouvernement, sauver la République et récupérer la nation. Nous sommes des citoyens et nous sommes la majorité.
Et qu'en dit la presse proche du gouvernement maintenant ?
Eh bien, elle préfère parler de la journée d'information sur la constituante organisée hier par le gouvernement. À 2 semaines de l'élection, les autorités avaient invité les citoyens à venir s'informer sur ce scrutin et à tester aussi les machines qui serviront au vote. Une sorte de répétition générale qui a envoyé un message de paix selon Jorge Rodriguez du Conseil national électoral cité par le site Télésur. Alors, quelle sera la suite ? Ensuite, eh bien, selon le journal brésilien Folha de São Paulo, gouvernement et opposition se trouvent à la croisée de chemin. On se dirige soit vers une confrontation finale, soit vers une ébauche de dialogue. Mais la clé d'une solution politique se trouve à La Havane, estime Folha de São Paulo. Seul le gouvernement cubain peut faire pression sur le président Nicolas Maduro pour qu'il suspende le projet de la constituante.
Un autre président en difficulté, à savoir Donald Trump, toujours empêtré dans l'affaire de collusion supposée entre la Russie et son équipe de campagne, le président américain est de plus en plus impopulaire.
Ah oui, c'est le résultat d'un sondage publié par le Washington Post. 48% des sondés désapprouvent fortement le président Trump, un taux jamais atteint par ses prédécesseurs démocrates Bill Clinton et Barack Obama. Donald Trump n'a pas attendu longtemps avant de critiquer cette enquête, la jugeant inexacte dans un tweet envoyé hier dimanche. Et puisqu'on parle de tweet, Marie, eh bien Donald Trump qui s'est lâché hier sous la messagerie, a réaffirmé qu'il n'y avait pas de collusion russe dans une campagne couronnée de succès et a dénoncé en passant les informations bidons, les fameux fake news, qui dénaturent la démocratie. USA Today, pour sa part, se demande si Donald Trump, qui fêtera bientôt ses 6 mois à la Maison-Blanche, peut se remettre de toutes ces affaires et ratages qui ont marqué le début de sa présidence. Les premiers 6 mois ont été brutaux, écrit le journal, mais les prochains pourraient bien être encore pires.
Direction le Canada maintenant, où l'enquête fédérale sur les violences à l'égard des femmes autochtones piétine.
Oui, la présidente de la commission d'enquête a démissionné il y a quelques jours. Elle s'en expliquait hier dimanche, selon Marilyn Poitras, citée par Le Devoir. La commission ne parviendra pas à éradiquer les racines de la violence systématique. Elle dénonce entre autres une approche coloniale de cette commission qui organise des auditions mais sans essayer de tisser des liens avec les communautés autochtones.
Et pour terminer, direction Hollywood. Hollywood qui déplore la disparition de deux grandes figures du cinéma hollywoodien.
D'abord, Martin Landau, mort à 89 ans, un acteur prolifique, écrit le Los Angeles Times. Mais les fans du genre de cinéma d'horreur déplorent surtout la disparition du réalisateur américain George A. Romero, dont le film culte La Nuit des Morts Vivants a lancé le genre des films des zombies. Il est décédé hier à l'âge de 77 ans. Le site Le Daily Beast le qualifie de visionnaire, quelqu'un qui a commenté la misère sociale et politique de son époque à sa façon. Dommage qu'il soit mort au début de la présidence de Donald Trump, écrit le Daily Beast. Qui sait ce qu'il en aurait fait?
Merci Arim Lipold pour cette revue de presse à relire sur RFI.fr.
Jacques Mel, 96.9 FM.
Plus de 20 ans après sa démobilisation, l'armée d'Haïti va reprendre de l'ampleur. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi, elle recrute 500 jeunes, des hommes, des femmes de 18 à 25 ans. Leurs prochaines missions sont encore inconnues car les FADH, les forces armées d'Haïti, n'ont plus d'état-major ni de loi cadre. Au micro de notre correspondante Amélie Baron, le ministre de la Défense haïtien, Hervé Denis, évoque les craintes qui existent au sein de la société civile et les raisons qui motivent ce retour de l'armée.
Qu'est-ce qui motive ? Nous répondons à un prescrit de la Constitution. C'est reconnu dans la Constitution du pays qu'il y a deux forces reconnues. D'abord, les FADH et la force de police. Et comme nous avons déjà la police qui est assez bien avancée, et donc nous avons pensé que l'autre pendant devrait être mis sur place. Et ça a été le travail.
Vous parlez de reconquête de la souveraineté nationale. Est-ce qu'il y a un lien avec le départ des casques bleus de la MINUSTA?
Oui, le départ des casques bleus nous interpelle un peu à cause de l'urgence que cela pose. Mais de toute façon, le plan de déploiement était prévu. Et nous avons tout simplement raté le pas et pour pouvoir un petit peu être en mesure de donner de la confiance à la population, à la communauté locale, aussi bien qu'à la communauté internationale, parce qu'après tout, notre devoir, c'est d'assurer la souveraineté nationale sous plusieurs aspects, notamment, par exemple, protéger d'abord le pays contre les catastrophes naturelles, protéger la frontière, parce que nous perdons beaucoup d'argent à travers la contrebande, et protéger l'espace maritime, et protéger l'espace aérien, et être préoccupé par le terrorisme, même si c'est pas un cas pressant chez nous, mais nous avons quand même des responsabilités régionales et internationales, parce que c'est une réalité, et nous oblige à pouvoir répondre à nos obligations en tant que pays souverain.
L'armée qui est en train d'être recrutée se focalisera donc, vous le dites, sur la protection de la frontière, l'action en cas de catastrophe naturelle. Ce sont des missions qui dépendent déjà de la police ou de la protection civile, deux institutions qui manquent de moyens, tant financiers que humains. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord renforcer la police, ce qui est un argument avancé par ceux qui sont opposés à votre armée?
Nous sommes complètement en faveur d'un renforcement de la police et nous y travaillons énormément. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Et chacune de ces forces ont leurs responsabilités. Ce serait illusoire croire qu'une seule institution peut faire à elle toute seule le travail.
L'histoire de l'armée d'Haïti n'est pas glorieuse et beaucoup en Haïti et à l'étranger s'inquiètent d'un retour de l'armée, l'armée qui en Haïti a été coupable d'exactions, de crimes, de coups d'État.
Et effectivement, il y a une partie de cette institution dont nous ne sommes pas fiers, je vous l'avoue. Mais attention, il y a aussi une partie dont nous sommes très fiers. N'oubliez pas que nous sommes un peuple d'anciens esclaves et que pour faire notre indépendance, nous avons dû créer une armée indigène. Et je crois que la geste héroïque de nos ancêtres mérite d'être rappelée à tout instant. Donc cette armée indigène, nous voulons peut-être par nostalgie retrouver un peu le sens des valeurs que nos ancêtres nous ont laissées. Je crois que ça, nous ne pouvons pas la galvauder, cette idée-là. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est celui qui a le monopole des armes qui conduit. Ce n'est pas nécessairement l'armée. D'ailleurs, quand cette institution a commis, on vivait une dictature. Vous comprenez? Et c'est pour cette raison que la nouvelle institution que nous présentons, vous voyez que c'est à dessein que j'utilise très peu le mot armée. C'est parce que je voudrais que les gens comprennent que c'est une institution d'un nouveau genre que nous voulons créer, que ce soit une institution qui accompagne le pays dans sa quête vers le développement.
Hervé Denis, ministre haïtien de la Défense, au micro d'Amélie Baron, notre correspondante en Haïti. Il est 14h25, bientôt à Paris, du sport pour finir avec en football le premier tour de la Gold Cup qui vient de s'achever. Alexandre Guiton, cette compétition n'a pas été une vraie réussite pour la Guyane et la Martinique.
0 sur 2, c'est le bilan de la Guyane et de la Martinique après les phases de poule. Aucun des deux départements et régions d'outre-mer français n'a réussi à se qualifier pour le second tour de la Gold Cup. Pire, la Guyane quitte la compétition avec 0 points. Les hommes de Jair Karam ont perdu leurs 3 matchs, 2 sur le terrain et 1 sur tapis vert, pour avoir fait jouer Florent Malouda sans y être autorisé par la CONCACAF. Les Martiniquais ont quant à eux fait meilleure impression. Victorieux de leur première rencontre face au Nicaragua, ils ont longtemps cru à la qualification. Mais leurs deux défaites face aux États-Unis et au Panama ne leur permettent pas d'aller plus loin. Ils terminent troisième de leur groupe avec 3 points et échouent aux portes des quarts de finale, à la différence des favoris de la compétition. En effet, le Costa Rica, le Mexique et les États-Unis terminent en tête de leur poule. Début des quarts de finale le 19 juillet prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal présenté par Marie Baucher aujourd'hui. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
La Guadeloupe pourrait devenir un pôle aéronautique stratégique de la Caraïbe.
C'est la volonté du président de l'école de pilotage caribéenne Aviation Center of Excellence. Très bien situé géographiquement, l'archipel a également des infrastructures de qualité. Plusieurs partenariats ont été signés au salon aéronautique du Bourget en Ile-de-France. De quoi donner un certain avantage à la Guadeloupe. Franck Aristide, Guadeloupe Première.
D'abord sur le volet sanitaire, grâce aux accords signés avec Dassault et Falcon, la Guadeloupe pourra se doter d'avions performants et donc en mesure d'assurer des évacuations sanitaires sur tout l'arc antillais ou encore le transport de matières dangereuses. De nombreuses îles pourraient ainsi bénéficier de notre offre en matière de soins médicaux. Mais ces jets permettront aussi le développement d'un tourisme d'affaires jusqu'à maintenant bien rare. Des vols à la demande pourraient être effectués depuis la Caraïbe vers l'Hexagone, l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique latine et même l'Afrique de l'Ouest, rendant ainsi nos destinations encore plus attractives. Enfin, ils permettront donc de renforcer la coopération avec la Caraïbe ou l'Amérique, de créer des emplois, mais aussi d'être leader en matière de maintenance aéronautique ou de formation. Un autre accord a d'ailleurs été signé avec une société canadienne pour la mise en place d'un centre d'entraînement de simulation de vol moyen et long courrier dans la Caraïbe.
Des ambitions également en Martinique, aux Terres-Saint-Ville, à Fort-de-France. Ce quartier a la réputation sulfureuse, considéré comme une place forte de la prostitution et des trafics divers, pourrait devenir le nouvel Eldorado des entreprises. Claude Gracien a rencontré une jeune entrepreneuse pour Martinique Première.
Audrey fait partie de ces jeunes qui avaient quitté l'île pour mieux se former et qui sont de retour. Elle avait commencé avec son papa, opticien également. Les Terres-Saint-Ville ont connu par le passé la présence d'opticiens. Eh bien, c'est elle qui prend la relève il y a 4 ans, alors qu'elle souhaitait s'installer à Fort-de-France.
Mes clients sont très agréablement surpris de voir un opticien sur les Terres-Saint-Ville. Ils veulent encore continuer à pouvoir avoir un professionnel de proximité dans leur quartier et autour, puisque Trinel, l'Ermitage, Route de Balata aussi, Gaudissart, sont ravis de pouvoir avoir un opticien tout près d'eux.
C'est une clientèle pour laquelle elle a dû adapter l'offre commerciale, parfois en revoyant un certain prix, compte tenu du pouvoir d'achat moyen des clients. L'insécurité pour elle, elle n'existe pas, en tout cas en journée. Sa quartier comme tous les autres, dit-elle, et elle espère voir arriver d'autres entrepreneurs encore.
Les Terres-Saint-Ville sont en pleine revitalisation. Je suis sûre que la population répondra à toutes ces offres qui pourraient venir sur les Terres-Saint-Ville.
Pourtant, Audrey va déménager. Mais juste en face de la rue, dans un nouvel espace, si les Terres-Saint-Ville l'ont accepté, elle a elle aussi adopté le quartier.
Et bon après-midi Marie, et à demain.
Merci Marie Baucher, merci aussi à Vincent Biteau et à Solène Moulin à la réalisation. On se quitte avec Baile des Brujos, un extrait de l'album de plusieurs musiciens argentins qui se sont rencontrés par hasard dans les rues de Paris. À demain.
Cantan chacareras, Pachamama, ay la la, ay la la la.
Pour sa 71e édition, le Festival d'Avignon met à l'honneur l'Afrique subsaharienne. Avec Kalakuta République, le chorégraphe burkinabé Serge-Aimé Koulibaly explore la pensée politique du grand musicien nigérian Fela Kuti. Un spectacle de danse engagé à découvrir au Cloître des Célestins du 19 au 25 juillet. Et pour ceux qui seraient loin, festival-avignon.tv, la chaîne du festival pour tout suivre en ligne. Plus d'informations sur festival-avignon.com et rfi.fr.
Merci.